c'est l'heure de retrouver Antoine Denecher. Bonsoir Antoine.
Bonsoir. Les syndicats opposés à la loi travail, principalement la CGT, passent à la vitesse supérieure. Les salariés de plusieurs raffineries viennent de voter une mise à l'arrêt complète, notamment dans la plus grande raffinerie française, Gonfreville-Lorcher, en Normandie. De quoi faire planer le spectre d'une pénurie de carburant, même si le gouvernement dément ce risque à court terme. Sous la pression et pour éviter une loi, le MEDEF change son code de bonne conduite et demande au grand patron de suivre le vote des actionnaires désormais sur les rémunérations des dirigeants. Insuffisant, réagira à l'association Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. En Autriche, le FPÖ tient son dernier meeting en ce moment à Vienne, à deux jours du second tour de la présidentielle. Le parti d'extrême droite pourrait l'emporter pour la première fois. Nous serons en direct avec Ludovic Piétenu à Vienne. Incroyable mais vrai, une ancienne base atomique devrait devenir une ferme aquacole géante. Le projet en Polynésie française est porté par un industriel chinois. Philippe Reltien s'est rendu sur place à 18h20 du Grain à Moudre. Ce sera avec vous Hervé Gardette comme chaque soir.
L'antispécisme est-il un humanisme ? Épisode 2, ce sera le thème de la discussion entre Corinne Peluchon et Dominique Lestel.
A tout à l'heure, 18h20. Il n'y a pas de risque de pénurie d'essence à court terme car nous n'avons pas encore utilisé les stocks stratégiques. Le ministre des Transports, Alain Vidalis, se veut rassurant aujourd'hui alors que l'appel de la CGT Mines Énergie à mettre à l'arrêt les raffineries du pays a été suivi d'effet dès cet après-midi dans plusieurs installations pétrolières. À Donge, près de Saint-Nazaire, une mise à l'arrêt d'une semaine vient par exemple d'être votée en Assemblée Générale par les salariés opposés à la loi travail. Mise à l'arrêt décidée aussi à Fézin, près de Lyon, et à Gonfreville Lorcher, en Seine-Maritime, un site stratégique, Bertrand Queneut.
Dans la plus grande raffinerie de France, 56% des salariés se sont prononcés pour l'arrêt complet après trois jours de blocage. La CGT et la direction doivent maintenant se rencontrer, établir un planning d'arrêt complet, autrement dit une procédure de cinq jours afin de fermer les robinets en toute sécurité. Par conséquent, et sachant qu'il faut environ une semaine pour la remettre en route, on peut déjà considérer que la raffinerie de Normandie, qui alimente 20% du marché national et notamment la région parisienne, ne produira plus rien durant au moins 12 jours. La situation risque donc de s'aggraver à la pompe et pour le consommateur. Dans le quart nord-ouest, près de 70 stations-service étaient déjà en rupture ce vendredi, soit presque un cinquième du réseau. La CGT, qui exerce ainsi un moyen de pression très fort sur le gouvernement, réclame toujours le retrait de la loi travail. Elle fait par ailleurs savoir que si les forces de l'ordre devaient intervenir, des actions plus lourdes encore seraient menées.
Pas de pénurie, donc, a dit le ministre Vidalis, mais dans le Grand Ouest, on note que de plus en plus de stations-service sont fermées et non plus d'essence, car elles sont prises d'assaut. Une station sur cinq est fermée, par exemple, dans la région de Rouen, à tel point que les préfets dans certains départements, Finistère, Côte d'Armor, Loire-Atlantique et Vendée, ont pris aujourd'hui des arrêtés pour rationner le carburant. 20 litres maximum autorisés par automobiliste. Notre but, ce n'est pas de créer la pénurie, assure Fabien Privé de Saint-Lannes, responsable de la CGT à la raffinerie Total de Donge.
Le but du jeu n'est pas de créer la pénurie, le but du jeu est de faire reculer un gouvernement qui aujourd'hui ne s'inscrit pas du tout dans un débat démocratique puisqu'il a refusé d'abord d'entendre la majorité des organisations syndicales, il a refusé d'entendre l'opinion publique, il a refusé d'entendre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui c'est une réaction de colère saine, il faut bloquer l'économie. Nous assumons entièrement l'intégralité des conséquences. Aujourd'hui d'autres secteurs sont en grève, les ports et docks, les routiers. Nous ne sommes pas isolés, c'est bien l'ensemble du secteur interprofessionnel qui est aujourd'hui mobilisé. Aujourd'hui on est face à une oligarchie qui n'écoute plus les citoyens et qui en train de jeter la France dans les bras du Front National, dans les bras de l'extrême droite ou dans les bras de l'abstention. Notre réaction de colère citoyenne, elle est saine pour la France, pour les droits sociaux et pour la République.
Des propos recueillis cet après-midi à Donge par Anne Patinec. Rappelons que l'intersyndicale nationale organise une nouvelle journée d'action contre la loi travail jeudi prochain 26 mai. Et à l'instant, le Premier ministre Manuel Valls le redit, la loi sur le travail ira jusqu'au bout, personne ne peut en douter. Le MEDEF tente d'amadouer Hollande sur le salaire des patrons. La formule étant une du journal Le Monde, datée de demain. En effet, après les polémiques récentes sur les salaires des patrons de Renault, de PSA ou encore de Capgemini, le MEDEF et l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, ont annoncé ce matin une révision majeure du code de gouvernance des entreprises. Ils vont en fait donner au vote des assemblées générales d'actionnaires sur la rémunération des patrons un caractère impératif, mais sans passer par la loi, comme l'ont envisagé cette semaine Manuel Valls et François Hollande. Mais cette révision ne prévoit pas, en revanche, de plafonner les rémunérations élevé, comme le réclame un appel des 40 au CAC 40, publié hier dans Libération. Il faut aller plus loin, estime ce soir l'association patronale éthique. C'est aussi l'avis de Pierre Delauzin, de l'association des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, pour qui la rémunération devrait être indexée sur les vrais résultats à long terme.
On avance petit à petit. Pour nous, ce qui est important, c'est à la fois la gouvernance et les critères eux-mêmes. La gouvernance, c'est clair, c'est l'Assemblée générale qui est directement en charge sur les principes. Parce que l'Assemblée générale, c'est les actionnaires. Les actionnaires, c'est les propriétaires de l'entreprise. C'est eux qui ont la responsabilité. Et il y a un deuxième aspect, donc, qui est celui des critères. Les critères, c'est on peut avoir une rémunération exceptionnelle à donner, oui, si les résultats sont vraiment exceptionnels. S'ils ne sont pas exceptionnels, ça ne se justifie pas. Et un résultat exceptionnel, c'est pas simplement des résultats financiers, c'est aussi des résultats d'ensemble sur l'entreprise, sur son développement, sur la création d'emplois, etc., et apprécié sur la longue durée. Parce qu'on peut toujours avoir des résultats à très court terme. Ce qui compte, c'est de voir s'ils sont stables et solides sur la durée. De sorte que même si une rémunération variable est donnée sur une année, elle ne soit pas définitive avec cette espèce de cliquet qui fait qu'une bonne année on enclenche, une mauvaise année on attend.
Pierre de Lauzin de l'Association des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, interrogé par Jean-Marc Chardon. Sachez que François Hollande sera l'invité de France Culture mardi prochain. Le président de la République répondra à Emmanuel Laurentin dans l'émission La Fabrique de l'Histoire de 9h à 10h mardi à l'occasion des commémorations du centenaire de la bataille de Verdun. C'est une décision de la nouvelle majorité de droite du Conseil régional en Île-de-France qui crée déjà une polémique politique. La gauche a voté contre, le FN s'est abstenu, c'était hier, dans l'hémicycle régional en Île-de-France. La région va donc financer des tests salivaires de dépistage de drogue et des éthylotests pour les lycéens franciliens afin de lutter contre les addictions. Hélène Tarzian, quel est l'objectif de Valérie Pécresse ?
Bien, l'objectif de la présidente du Conseil régional Île-de-France, c'est de lutter contre le décrochage scolaire, dont l'une des racines selon elle, c'est la consommation de drogue. Mais ce vote, qui était une promesse de campagne, provoque l'indignation des chefs d'établissement. Michel Richard, secrétaire général adjoint du syndicat des proviseurs.
Laissons à chacun, dans un État républicain, accomplir la mission qui lui revient et évitons de brouiller les cartes. Le chef d'établissement, il a pour mission d'optimiser le fonctionnement de son établissement pour favoriser la réussite de chaque élève.
Alors, ces tests seront effectués sur la base du volontariat des proviseurs, sous réserve d'avoir l'approbation du conseil d'administration du lycée. Si la mesure est validée, il faudra demander l'accord des familles quand le lycéen est mineur et les résultats resteront anonymes selon le conseil régional. Pourtant, Hervé Jean Le Niger, vice-président de l'association des parents d'élèves FCPE, estime que ce n'est pas une réponse adaptée à l'addiction. Il préférerait que le budget alloué à ce dispositif soit plutôt concentré vers des mesures d'accompagnement.
Il serait beaucoup plus pertinent que cette ligne budgétaire soit dédiée à financer des personnels médico-sociaux, des infirmières scolaires, des médecins, des assistantes sociales qui, dans un interrelationnel, pourraient aider, favoriser le dialogue avec ces adolescents qui sont extrêmement fragilisés et qui sont dans des conduites addictives, par exemple par rapport au cannabis.
Mais pour le Conseil régional d'Île-de-France, les tests salivaires sont loin d'être punitifs. Othmane Nasrou, élu de la majorité, estime au contraire que c'est une solution concrète pour lutter contre le décrochage scolaire.
Il ne s'agit pas de pointer du doigt, ce n'est pas du flicage. À aucun moment, le secret médical ne sera brisé. Mais c'est quand même une manière de commencer à lever l'omerta un petit peu sur ce sujet qui est un peu tabou, qui pourtant crée des ravages en matière notamment de décrochage scolaire.
Et puis pour défendre cette mesure, le Conseil régional réplique que la consommation quotidienne de cannabis chez les lycéens est passée de 4 à 10% en 3 ans.
Merci beaucoup Hélène Tarzian. Salah Abdeslam est muet. Le seul survivant des commandos djihadistes du 13 novembre à Paris et Saint-Denis a refusé aujourd'hui de répondre aux questions du juge d'instruction qui voulait l'auditionner pour la première fois depuis qu'Abdeslam est détenu en France. Il n'y a pas plus d'explications ce soir sur les causes de la disparition de l'Airbus A320 d'Égypte Air dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. En Méditerranée, il y avait 66 personnes à bord, rappelons-le. Jean-Marc Ayrault indique bien qu'aucune hypothèse n'est privilégiée par la France. Alors qu'hier, on le sait, l'Égypte a rapidement affirmé que la piste la plus probable était celle de l'attentat. La nouveauté du jour, c'est que les recherches menées en mer ont donné des premiers résultats, comme le confirme André Parent, ambassadeur de France en Égypte, qui d'ailleurs a rencontré ce matin les familles des victimes françaises.
Ce matin, l'armée égyptienne a annoncé avoir retrouvé des éléments qui proviendraient de l'avion, notamment des effets personnels. Donc c'est une excellente chose. Je pense que ça va aider les familles, parce qu'elles ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Et puis surtout, ça va permettre un démarrage de l'enquête. À partir du moment où on aura repéré l'épave, on va pouvoir peut-être récupérer les corps et puis récupérer aussi les éléments de l'avion. Et à partir de là, l'enquête va pouvoir s'engager réellement et permettra certainement de déterminer assez rapidement les causes de la catastrophe.
Dans quel état psychologique vous avez trouvé ces familles de victimes ?
Alors, comme vous pouvez l'imaginer, elles sont extrêmement... elles sont sous le choc. Il y avait 15 passagers français, 16 même, je crois, puisque découvert un monsieur qui avait la double nationalité française et soudanaise, donc il y a 16 victimes françaises, donc ça crée beaucoup d'émotions ici en Égypte, puisque c'est un vol d'égyptaires et que la majorité des victimes sont égyptiennes. Mais ça crée aussi une forte émotion en France qu'on peut comprendre, puisque nous avions un certain nombre de compatriotes à bord de l'avion.
L'ambassadeur de France au Caire, interrogé par Omar Waman. En Turquie, le président Erdogan a réussi à faire adopter aujourd'hui par le Parlement sa réforme constitutionnelle qui va permettre de lever l'immunité des députés qui sont visés par des procédures judiciaires. Cela n'a rien d'anodin, puisque sur les 59 députés turcs qui sont concernés, 50 sont membres du principal parti d'opposition pro-kurde, HDP, Alexandre Biette.
C'est une décision lourde de conséquences qui a été prise par les députés vendredi. Les élus ont voté la levée de leur propre immunité parlementaire, comme le souhaitait le président Recep Tayyip Erdogan. Une décision qui concerne tous les partis, mais surtout le parti pro-kurde HDP. Presque tous ces députés sont visés par des procédures judiciaires, plus de 400 dossiers à leur nom, pour propagande ou soutien au terrorisme du PKK. Le chef du HDP, Selahattin Demirtas, lui-même ciblé par une enquête, parle de coup d'État. Chose certaine, ce pourrait être la fin du HDP au sein de l'Assemblée nationale. 50 des 59 députés pro-kurdes pourraient ainsi être mis en état d'arrestation dans les jours ou les semaines à venir. Le président Erdogan, qui a promis, je cite, de sortir les traîtres du Parlement, s'est réjoui d'un vote historique. En revanche, ses détracteurs l'accusent de vouloir ainsi éliminer les élus qui s'opposent à son projet de régime présidentiel et de modifier la loi pour façonner un Parlement à sa convenance. Dans un pays déjà sous haute tension, la levée de l'immunité parlementaire et l'éventuelle arrestation de députés pro-kurdes risquent surtout de polariser encore davantage la Turquie autour de la question kurde.
Dans deux jours, l'Autriche aura peut-être un président d'extrême droite. Norbert Hofer est en effet en bonne position pour remporter le second tour de la présidentielle dimanche face au vert Alexander Van der Bellen. Son parti, le FPÖ, organise d'ailleurs en ce moment son dernier meeting de campagne à Vienne. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Antoine.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture en Autriche pour cette élection présidentielle. Et justement, vous assistez à ce meeting. C'est quoi l'état d'esprit au sein du FPÖ ?
Bah ici, ce sont des paroles de victoire hein, dans la bouche des habitants de ce quartier très populaire de Vienne. Nous sommes dans le 10e arrondissement où cohabitent des immigrés, des personnes âgées, des jeunes. Leur point commun, ce sont des revenus faibles, le ras-le-bol de la crise. Et ils misent sur le parler vrai du candidat Norbert Hofer qui va s'exprimer d'un instant à l'autre ici. Antoine, la parole est libérée. Ne soyons pas naïfs sur le dossier des migrants. Vient par exemple de déclarer le vice-maire de Vienne, Johan Gudenus, l'un de ceux au sein de ce parti FPÖ qui a le discours le plus radical. Les Autrichiens sont devenus des citoyens de seconde zone, vient-il par exemple de déclarer sous les vivas de cette foule bigarrée.
Ludovic, vous êtes à Vienne depuis plusieurs jours. Vous avez voulu comprendre pourquoi le vent était si favorable au Parti de la Liberté.
Et je me suis rendu au centre de documentation sur la résistance autrichienne dans le centre-ville de Vienne avec ce chercheur spécialiste de l'extrême droite, Bernard Weidinger.
On observe en Autriche que les attitudes racistes sont très répandues. Une grande partie de la population est au moins prête à accepter les prises de position du FPÖ sur des sujets comme les migrants et l'asile. Le travail de dénazification n'a pas été mené comme il a pu l'être en Allemagne. Il n'y a pas eu d'effort de rééducation. Et ça a beaucoup à voir avec le fait que l'Autriche est parvenue avec succès à se présenter comme la première victime des nazis. C'est aussi l'une des raisons de l'absence d'un cordon sanitaire en Autriche, contrairement à ce qui existe en Belgique ou en France.
Ludovic Piétenu, en direct de Vienne, en Autriche, des problèmes pour entendre la fin de l'interview. On vous écoute, Ludovic.
Désolé pour ce petit souci technique. En tout cas, ce que disait notre chercheur, c'est que le Parti de la Liberté ici est plus qu'en voie de normalisation. Il est depuis 20 ans et depuis 1995, la victoire de Jörg Haider, vous vous souvenez, il fait partie du paysage politique et les Autrichiens semblent de plus en plus nombreux à choisir la voie de la raison. C'est le slogan du FPÖ dans cette élection. Il est affiché ce soir en lettres capitales sur la scène de ce meeting viennois.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Vienne, envoyé spécial de France Culture. Merci aussi à Fabien Gosset. bosser à vos côtés pour les moyens techniques. Il fallait y penser. Une ancienne base nucléaire française est en train d'être transformée en ferme géante d'élevage de poissons. Il s'agit pourtant d'un des endroits les plus pollués de la planète. Sur l'atoll Dao, en Polynésie, des investisseurs chinois sont prêts à mettre 800 millions d'euros dans ce projet, Philippe Reltien.
C'est l'ancien président de la Polynésie française, Gaston Flosse, qui a choisi l'endroit en 2013, affirme l'actuel ministre de la Mer, Teva Arofrich. Le gouvernement autonome polynésien a déroulé le tapis rouge et offert gratuitement 32 hectares de l'atoll à M. Wang Cheng, PDG d'une entreprise de pêcherie maritime. Ses activités vont de l'Atlantique à l'océan Indien, en passant par le saumon en mer du Nord. Sur cet atoll, où l'on assemblait la bombe à l'époque des essais nucléaires, il projette d'élever la loche saumonée, le mérou, le napoléon, du jamais vu à l'échelle industrielle. Les risques de l'élevage intensif sont connus. Les maladies et l'asphyxie du lagon, souligne l'expert en biodiversité Eric Clua.
Les quantités à produire sont faramineuses. Il faut importer 500 000 tonnes d'aliments. Vous imaginez déjà l'impact que ça va avoir en termes d'eutrophisation, c'est-à-dire d'asphyxie possible de ces lagons, en particulier le lagon de Hao, qui n'est pas particulièrement bien drainé.
Les plans de la ferme-usine géante montrent des bâtiments sur pilotis, un laboratoire, des dortoirs, les chaînes de stockage, d'emballage, de froid et une tache sombre dans l'océan correspondant au panache des rejets en mer. L'architecte tahitien prévoit une extension à d'autres lagons pour remplir l'objectif de produire et exporter 1 million de tonnes de poissons engraissés en cages flottantes. La China Development Bank confirme son intérêt pour le projet, comme pour d'autres, liés au tourisme, mais un problème se pose sur l'atoll. On y a décelé la présence de plutonium. On en a trouvé en bout de piste, dans le corail, là où les avions testeurs de radioactivité à l'époque, les vautours, revenaient se poser après avoir traversé les champignons atomiques au-dessus de Moruroa. Bruno Barrio, ex-délégué du gouvernement polynésien pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, avait pourtant alerté les autorités avant d'être limogé. Malgré les risques de montée des eaux et de cyclones, on n'enlèvera pas ce plutonium, décision des experts, ce qui fait réagir Roland Oldham, le président de l'Association des anciens travailleurs du nucléaire. Écoutez-le.
Quand les avions revenaient là, ils étaient nettoyés à jet d'eau et cette eau-là, avec des canalisations, allait directement dans le lagon. Le plutonium restera là. J'arrive pas à accepter ça, je boue de colère. Vous savez, un cyclone, quand ça arrive, les coraux, nous, on les retrouve à 400 mètres dans la montagne. Alors vous nous dites qu'il faut laisser la dalle là parce que ça va rien faire.
Et quand François Hollande débarque à Tahiti le 22 février, il a droit à une banderole où l'on peut lire « Repars avec ton plutonium ». Évidemment, des études d'impact vont précéder la construction de l'usine. Les travaux pourraient commencer en septembre. Les 1200 habitants peuvent s'attendre aussi à des surprises. Une étude de santé, la première, a démarré pour savoir si la pollution aux PCB potentiellement cancérigènes et aux métaux lourds a pu affecter leur santé à travers la chaîne alimentaire. Une étude du cabinet Artelia en 2012 recommandait de ne pas manger de poisson plus d'une fois par mois sur cet atoll.
Merci Philippe Reltien. Votre reportage complet sera retrouvé tout à l'heure 19h20 chez nos confrères de France Inter dans l'émission Secret d'infos. Plus d'informations aussi sur franceculture.fr. Avant dernier jour de compétition à Cannes au festival avec deux films emblématiques de la mondialisation du cinéma, The Neon Demon du danois Nicole Swinding Refn tourné à Los Angeles, et puis The Last Face de Sean Penn, l'américain, qui lui se déroule en Afrique. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir Antoine.
Jusque-là, la compétition se maintenait à un bon, voire un très bon niveau, mais selon vous, aujourd'hui, elle accuse un sérieux coup de mou.
C'est peu de le dire. En juin 1961, dans les cahiers du cinéma, Jacques Rivette, disparu il y a peu, écrivait à propos du film Capot de Gillo Pontecorvo un texte fondateur pour la critique cinématographique. Il s'appelait « De l'abjection » et posait les bases d'une morale cinématographique dans la façon de représenter l'horreur, en l'occurrence celle des camps de concentration. On pourrait le reprendre mot pour parler du nouveau film de Sean Penn. En choisissant de situer dans le Darfour, le Libéria et le Sierra Leone des années 2003 à 2016, une romance passionnelle entre deux médecins humanitaires, Sean Penn fait preuve d'une irresponsable indécence. On nous épargne rien de la représentation complaisante des enfants en pleurs, plaies béantes et autres cadavres empilés. Les victimes ne sont que des figurants sans identité ni dignité d'une histoire ridicule entre blancs bien pensants. Il y eut le travelling de Capot, il y a aujourd'hui les ralentis de The Last Face. Rivette assurait Pontecorvo de son plus profond mépris. Les temps ont changé. Sean Penn n'a eu droit en projection de presse qu'à des ricanements affligés. À côté, The Neon Demon est un chef-d'œuvre, mais tout de même, éco-pop au film d'Olivier Assayas, présenté il y a 3 jours, ce film d'horreur hyper stylisé et maniériste dans le milieu de la mode, à l'esthétique porno-chic datée, comme du Jean Rollin photographié par un Helmut Newton plagiant Dario Argento, se veut une réflexion sur la beauté, rien de moins, avec cette histoire d'une jeune fille belle à croquer qui va se faire littéralement manger toute crue par le milieu du mannequinat. Le film est par moments tellement bébête qu'il en est très rigolo. C'est déjà ça de prix.
Merci beaucoup Antoine Guillot, en direct de la Croisette sur France Culture. Un mot de météo demain, temps gris et orageux dans le nord jusqu'en Aquitaine, ensoleillé et chaud dans le sud. Merci à Jean-François Braun pour son aide.